pourquoi pas proposer à la chorale, tu vois, de peut-être chanter des parties sur certains endroits, ça serait assez marrant, quoi. Bon, après, sur scène, ça serait carrément le bazar.
C'est plus difficile.
Ça ferait un peu beaucoup. Ouais. Ouais, puis il faut avoir les structures hein, qui te font 63 cachets.
C'est ce que j'allais dire aussi économiquement. Je pense que tu vas être un peu limité.
Ouais, ça marche.
Ou alors avec des cachets.
C'est ça. Des tout petits, mais voilà.
Et le. J'ai perdu le fil, ça y est, j'avais un autre truc. Mais bref, oui. Et justement, le live, y a quelques dates qui s'annoncent pour voir Pointe du Lac. Alors, on vous a vu quelques fois ici à Nantes.
Ouais, ouais.
D'autres choses prévues sur Nantes
c'est vrai que voilà, fait assez étonnant aussi quand on est indépendant et qu'on n'a pas de structure, on n'a pas de tourneur nous par exemple, donc soit les gens nous appellent parce qu'ils ont aimé notre disque, mais en fait ça arrive à peu près jamais quand t'as pas de tourneur, ou soit nous on démarche, mais ça n'arrive à peu près jamais parce qu'on démarche pas. Et voilà, en tout cas depuis la sortie du disque début décembre dernier, on n'a fait aucun concert. Ce qui est, voilà, c'est un petit peu c'est les vaches maigres, mais en avril on a 3 dates de prévues. Le 5 on jouera à Paris, je sais plus exactement dans quel endroit c'est, mais bon, ça sera reprécisé si jamais si jamais vous êtes dans les abonnés des réseaux sociaux de Pointe du Lac, on annoncera tout ça évidemment. Le 6 avril on joue dans un festival à Besançon. Donc c'est un petit peu loin.
Festival, bah oui, j'imagine en proximité aussi du label, donc.
Oui, bah ça s'est fait par hasard. Ça s'est fait par hasard puisque finalement le programmateur du festival il est ami avec le directeur du label Hands in the Dark, mais ils se sont même pas consultés pour cette programmation. Il avait juste écouté le disque, il s'est dit ah tiens, il faut qu'il vienne jouer dans le festival. Et donc ça sera l'occasion de se rencontrer, mais c'était même pas c'est une sorte de coïncidence un peu entre guillemets quoi. Et le 7 avril, donc le lendemain, on rejouerait à Paris mais dans une formation différente où on jouerait chacun en solo.
C'est-à-dire
un solo Julien Lelier, un solo Richard Français et un solo Quentin Rollet. Alors, on jouera en séparé.
Donc faut faire les trois concerts.
C'est ça, faut faire les.
C'est dans trois salles différentes.
C'est ça, ouais, dans trois endroits. Et...
C'est un concept.
Ça peut, on peut essayer.
C'est comme les narvals mâles qui, il y en a un sur 500 qui possède deux défenses.
Ouais, j'ai appris ça en me promenant sur Wikipédia. Ouais. C'est parce qu'en fait, en faisant le disque, je me suis renseigné sur beaucoup de choses de la faune de l'océan Arctique.
Des siphonophores.
C'est ça, des populations de la faune, de tout ce cercle arctique. Voilà, de la fonte de la glace, de plein de choses, enfin puis de l'impact de populations locales aussi parfois, à la fois on a envie d'avoir le progrès, et à la fois finalement les modes anciens étaient sympas, c'est toujours
un quid de la résilience, finalement.
Ouais. Alors au Groenland, là j'avais vu des documentaires là, sur les gens qui vivent au Groenland, où c'est vraiment très très compliqué, quoi. Entre à la fois un mode de vie un petit peu ancien mais peu confortable, ou alors le confort moderne mais des échanges, de la mondialisation, de la pollution.
Et la capacité de traiter tout ça parce qu'ils n'ont pas les structures pour...
Exactement, ouais. Voilà, donc c'était des choses dont j'ai navigué un petit peu de page Wikipédia, on peut y passer des soirées.
Et dans l'organisation justement, on parlait tout à l'heure de l'organisation de l'album, vous l'avez... Je pense que j'ai une partie de la réponse, mais comme vous l'avez sorti en vinyle, l'organisation du disque répond vraiment à une logique de face A et de face B,
oui,
me semble-t-il.
Ouais.
Il y a vraiment une
raison. En fait, on l'a construite aussi avec Onito de Hands in the Dark, qui est celui qui vit à Londres.
Ah, ok.
Et en fait, on a vraiment discuté de la cohérence et de la forme de cet album ensemble. Ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent dans la communication avec le label. C'est que c'était un échange vraiment très humain, très facile, et où je leur disais, n'hésitez pas à suggérer des choses si vous imaginez l'architecture de l'album d'une manière différente. Et en fait, justement, les suggestions qu'a faites Onito, c'est des choses où, en général, j'arrive bien à concevoir un disque dans son ensemble, à concevoir des morceaux, à enregistrer de la musique, à mixer la musique, à faire presque un produit fini, mais en général, il manque toujours le truc de fin qui fait qu'il faut réorganiser tout le bazar. Quoi. C'est-à-dire que je mets le bazar dans ma chambre, mais j'arrive pas à la
ranger. Tu sors tous les instruments, en fait.
C'est ça.
Et t'arrives à faire une recette, mais.
C'est ça. C'est des choses.
Il faut en mettre dans l'ordre.
J'ai sorti tous les jouets, mais j'arrive pas à ranger ma chambre. Et là, du coup, c'était vraiment précieux qu'il puisse donner son éclairage et m'aider un petit peu à ranger ma chambre, quoi. Et du coup, c'est lui qui a vraiment donné cet aspect, cette cohérence aux deux faces du disque. Et
En tout cas, ça s'entend que ça a été conçu, en tout cas qu'il y a l'influence du support physique dans l'organisation des morceaux.
Bah ça, c'est l'histoire du support enregistré, hein. C'est l'histoire de la musique enregistrée. Hein.
Exactement.
Du disque vinyle jusqu'au
CD.
Aux plateformes de streaming qui font que maintenant les gens écoutent
le premier
surtout,
titre. C'est incroyable d'ailleurs quand on regarde sur les plateformes.
Des titres en mode shuffle, quoi. C'est-à-dire que.
Et je sais pas si tu regardes sur les plateformes, tu regarderas tous les albums un peu récents, un peu moins les anciens, parce qu'il y a des tubes dessus, donc c'est un peu. Tous les albums récents, récents, une dizaine d'années. Ouais. C'est toujours le premier morceau qui est le plus écouté en
réalité. Je sais pas, j'ai jamais regardé comment c'était sur les plateformes. J'ai pas d'abonnement.
J'ai aussi pas d'abonnement, mais j'ai la version gratuite. Et de temps en temps, effectivement, je regarde les écoutes et c'est toujours le premier morceau en fait.
Okay.
C'est incroyable en fait aujourd'hui en fait pour faire un album. Bon, c'était déjà le cas aussi sur un support physique hein, pour accrocher l'éditeur sur un album, un morceau fort. Mais en réalité, finalement, tu te rends compte la curiosité. Le dernier morceau du album.
Il est toujours passé à la trappe.
Il y a des trucs qui sont à zéro.
Moi, j'aime bien mettre un truc hyper beau à la fin.
L'Aurore Boréale. Vous terminez sur l'Aurore Boréale.
Qui est un chouette titre.
Et là, il y a des...
Et puis en plus, là, Quentin, il atteint des notes qui sont vraiment haut perché, qui sont loin dans le cosmos. Ouais.
Clairement.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en plus, j'ai vu des statistiques sur Spotify qui disaient que, apparemment, 60% de la musique qui est présente sur Spotify
n'est pas écoutée.
À moins de 11 écoutes.
Ouais. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. Mais en fait, c'est
moins de 11.
C'est la loi de Pareto.
C'est ça.
C'est, enfin, oui, en gros, il y a 20%, il y a encore, un peu plus quand même.
Ouais.
Mais, C'est tout ça pour ça.
60%. Alors, s'imagine, c'est pareil, c'est stocké sur je ne sais combien de.
C'est ça qui est dingue, sur l'usage, en fait.
Et des fois, ça fait réfléchir à sa pratique de musicien. On se dit finalement, est-ce que c'est bien nécessaire que.
Est-ce que jeter une bouteille à la mer?
Est-ce que c'est bien nécessaire qu'on se donne autant de mal à faire d'exister notre musique sur des disques ou des choses, alors que. Ça reste de la musique de niche, et il y a déjà pléthore de musique qui sort tout le temps et qui est écoutée par plein de gens. Nous on le fait parce que ça nous fait du bien. Hein. Moi, je veux dire, j'ai besoin de faire de la musique. Hein. J'ai vraiment. C'est vraiment quelque chose.
C'est pour ton hygiène personnelle, ton écosystème
totalement,
personnel.
Totalement. Puis. Justement, moi je joue du synthétiseur dans Pointe du Lac, mais je pratique le piano. J'ai besoin d'en faire tous les jours presque, ou quasiment, quoi. J'ai besoin de jouer et puis de jouer des choses qui ne sont pas nécessairement de moi, ou des choses.
Et ça te permet quoi, justement, dans cette espèce de, finalement, d'hygiène quotidienne? Pour certains d'autres, c'est la méditation. Ça peut être aussi la méditation, mais il y a peut-être un côté méditatif.
Ouais.
D'ailleurs, hypnotique ou hypnotisant, je ne sais pas. C'est quoi justement le fait de jouer à la fois du piano ou du synthé de manière quotidienne?
Le synthé, non, j'en joue presque jamais.
D'accord.
On fait des concerts.
Okay.
Et
le piano, pourquoi?
Le piano, c'est quelque chose. C'est comme les gens qui font de la méditation, effectivement, ou du sport. Je me suis mis un peu au sport, d'ailleurs, aussi. Depuis janvier, là, je me suis dit, c'est un ensemble. On vieillit, tu vois, on passe des caps. Moi, j'ai plus de 40 ans et je me dis, il faut peut-être que je fasse une activité cardio, un truc qui fait. Je voyais des gens courir, je me disais, ça a l'air de leur faire du bien de faire ce genre de truc.
Donc, tu t'es mis à courir.
Ouais, je me suis mis à courir. Alors, je fais ça.
C'est Komische, tu sais, ça me fait penser à un truc, le Komische Laufer, tu sais, c'est la musique de.
Ouais.
Tu te souviens, cette musique qui était faite pour les arts, pour les, C'était pour les sportifs de l'Europe de l'Est, là, qui faisaient cette musique, soi-disant, pour les...
Eh ben justement, moi, c'est un total contre-pied, tu vois, parce que je me suis mis à courir une à deux fois par semaine, et je me suis acheté des écouteurs assez sympas, là, qui se branchent en
fil.
Ouais. Mais avec une qualité audio, vraiment, tu vois, j'ai cherché des trucs qui ont vraiment une qualité audio qui me permettent d'être ailleurs, quoi, tu vois, de vraiment... Il y a cette idée... Et quand je joue du piano, c'est pareil. Et d'aller ailleurs, quoi. Vraiment, ça met l'esprit ailleurs. Quand je joue du piano, je suis dans les notes de musique, je déchiffre en même temps mes partoches, mes trucs, et ça m'emmène vraiment ailleurs. Et,
ça te permet de couper, en fait, d'être concentré sur un sujet.
C'est ça, et puis ça,
d'évacuer le reste,
ça met la tête complètement ailleurs, et ça fait le ménage un petit peu dans le cerveau, quoi. Et quand je cours, c'est pareil, sauf que les gens, généralement, quand ils courent, ils choisissent des musiques énergiques parce qu'ils se disent, il faut un rythme pour courir. Et moi, c'est exactement précisément l'inverse. Je cours en écoutant Olivier Messiaen, tu vois.
Ça fait le lien vers le
morceau
qu'on va écouter.
Bah oui, oui.
Bah, super.
Et en fait.
Subtile transition.
Bah, la musique d'Olivier Messiaen, moi, me fascine. Alors, je disais, c'est peut-être parce qu'on vieillit, mais on parlait de ça tout à l'heure par rapport aux histoires de rythme. D'avoir besoin de structures évidentes, de rythmes, de choses énergiques, etc. Et plus ça va, moi, et plus finalement mes discothèques, c'est essentiellement de la musique classique. Hein.
Moi, c'est le cheminement de Marcolis, de Tocqueville.
Ouais, mais ce que j'écoute quotidiennement, moi, c'est vraiment Olivier Messiaen. Je ne peux pas passer une semaine sans écouter des œuvres de Messiaen. Enfin, vraiment, c'est absolument impossible. Et c'est une musique, tout à l'heure, on parlait de... Ah oui, tiens, j'avais ramené aussi les résidents. Bon, c'est pas grave. On peut pas tout passer. Et à un moment, Olivier Messiaen, par exemple, il est allé dans les canyons de l'Utah. Ça lui a fait une forte impression. Je crois que c'était dans les années 70. Et il a composé un morceau qui s'appelle « Des canyons aux étoiles », qui est à la fois ce côté majestueux des canyons, où vraiment il y a des grands accords de cuivre qui sont superbes.
Et qui donnent la résonance de l'immensité.
L'immensité du canyon, et puis vraiment la verticalité. C'est-à-dire que même sur une partition, un accord, c'est quelque chose de vertical, c'est quelque chose de très droit. Et donc il y a à la fois ces grands accords très verticaux, puis avec ces harmonies qui sont sublimes, quoi. Et à la fois, il y a des choses très, très, très célestes qui planent très, très haut dans le ciel, qui sont vraiment dans les étoiles, quelque chose de très mystique. Et il a toujours en plus cette passion d'ornithologue, où il connaissait apparemment, je crois, 600 chants d'oiseaux de mémoire par cœur, qu'il retranscrivait dans des carnets et qu'il stylise dans sa musique. Et ça, je trouve c'est une démarche absolument fabuleuse.
Incroyable.
De réussir à styliser le chant d'oiseau. Parce que finalement, au XXe siècle, quand on est compositeur du XXe siècle, quel intérêt d'enregistrer quel intérêt de jouer un chant d'oiseau tel quel? Aucun. Et sinon, on peut l'enregistrer. On a tous les moyens techniques pour enregistrer un chant d'oiseau et se dire, tiens, je vais vous faire écouter un chant d'oiseau. Mais Messiaen, il fait pas ça du tout. C'est-à-dire qu'il change d'octave. Si le chant d'oiseau est lui, il va le mettre une ou deux octaves en dessous. Il va le faire jouer par des instruments qui n'ont rien à voir. Un glockenspiel, un marimba, et du piano. Et voilà. Et donc, pour finir cette émission, j'avais envie qu'on écoute. Oui, puis il y a ce rapport à la religion. Évidemment, il y a ça. Alors, c'est-à-dire que Messiaen était un fervent catholique. Hein. Moi, j'aurais plutôt des côtés anticléricaux. Moi, vraiment, clairement.
Avec la Sainte Chapelle, quand même.
Ouais, mais justement. Justement.
C'est un contre-pied.
Ouais, ouais. Et justement, je serais plutôt papote avec les curés. Hein. Tu vois, c'est pas trop. Ou alors avec les vendeurs de Bible et les témoins de Jéhovah que je croise tout le temps à côté de chez moi. Là. Et Messiaen, enfin, ce qui est fabuleux, c'est que sa foi est magnifique. Ça en confine complètement au mysticisme, parce que, enfin, si tu veux, c'est un peu comme avec Jean-Sébastien Bach. C'est le philosophe Émile Cioran qui disait s'il y en a bien un qui doit tout à Bach, c'est Dieu. Et pour Messiaen, c'est exactement la même chose. Je trouve que, cette foi est magnifique dans le sens où ça l'a porté quand même pour composer toute cette musique. Et ça en dit long, je trouve, sur la puissance spirituelle et la puissance de l'imaginaire qui fait qu'on peut en venir à créer des paysages et des atmosphères absolument fabuleuses, quoi, absolument magnifiques.
Je lisais un ouvrage là. Bon, je fais un pas de côté, mais sur des utopiennes, la sortie par les éditions de la Mer Salée. Et c'est un peu ça, en fait, c'est de créer des utopies, en fait. Finalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'utopie permet de dépasser qui on est. nous permet de dépasser son œuvre, son art, ce qu'on veut.
Tout à fait.
Et je trouve intéressant parce que c'est du coup le concept, c'est d'écrire des lettres de 2046 qui sont envoyées ici en 2020. Ouais. Et en tout cas des textes. Et je trouve intéressant en tout cas le, tu vois, d'être porté par ça en fait, parce que c'est, finalement c'est sublimé par une croyance, quelle que soit la croyance finalement, ou l'utopie qui est derrière. Parce que finalement, une religion, c'est une utopie d'une certaine manière.
Oui, bah oui, oui. De toute façon, c'est des, voilà, c'est des choses qu'on se raconte.
C'est ça.
Et voilà. Donc là, le morceau que j'avais envie qu'on écoute, c'est un extrait des 20 regards sur l'enfant Jésus, qui est une œuvre, un cycle d'œuvres pour piano qui date de 1944. Et bon, interprété là, dans une version interprétée par Yvonne Loriot, qui était sa compagne, Olivier Messiaen. Et donc, elle y met énormément d'amour hein, dans tout ça. Et bon. Moi, ma version préférée, c'est celle de Jean-Rodolphe Kars, qui était un curé qui avait eu une espèce de transe mystique, qui avait joué ça en concert, mais d'une manière magnifique, complètement transcendantale. Mais la version d'Yvonne Loriot est fabuleuse. Hein. Et je voulais qu'on écoute quelque chose qui s'appelle « La première communion de la Vierge ». C'est, bon, c'est pareil, hein, c'est vraiment très emprunt, mais c'est assez fabuleux. Au début, on entend une
suite... Si on s'en détache, en fait, en réalité, je pense qu'il faut se détacher du...
Ouais, ouais complètement. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est d'analyser, parce qu'il y a des degrés de lecture qui sont, qui sont infinis. Hein, de ces messions, ils pouvaient aussi bien mettre des messages cachés avec des lettres, enfin, des notes qui représentent des lettres, et qui symbolisent des mots, qui veulent dire des choses, enfin, etc. En plus, il y a des complexités rythmiques qui sont assez superbes. Et là, dans ce morceau, du coup, au début, il y a un thème d'accord qui est très simple, de quatre accords, qui est le thème de Dieu. Alors, c'est une très belle suite de quatre accords. Et en fait, il vient se faire poser dessus. Il y a la main droite qui joue des oiseaux, qui viennent se poser sur ce thème d'accord là. Et les oiseaux ponctuent ces thèmes d'accord. Donc, on entend ça pendant tout le début. Et après, ça progresse vers quelque chose qui nous amène à un moment très rythmique, avec des accords qui viennent faire quelque chose qui est très rythmique. On dirait du matrock, hein.
J'extrapole un peu, mais
dans la manière dont on est obligé de compter, tu vois, on est obligé de compter quand on le joue. C'est des choses que je travaille un peu de temps en temps. Alors, je le joue pas bien, hein. Je le joue pas comme Yvonne Loriot. Mais et ensuite, il y a un moment très 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 dissonant où il y a des grands accords qui sont joués ultra vénères, et ça nous amène à un moment complètement mystique où il y a une note grave. C'est un fa qui est très très grave là, qui fait bo 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 boom comme ça, et ça représente le cœur de l'enfant Jésus qui bat à l'intérieur de Marie. Et donc Marie entend ça, et quelque part, bon, la religion, on s'en fiche, mais ce qui est fabuleux, c'est de réussir à se dire, tiens, c'est de s'imaginer le compositeur qui est en train de se dire, tiens, ouais, à ce moment-là, on aura cet effet sonore-là qui va représenter ça, et on entend lointainement, là, dans le fond, là, cette sorte de note grave là, qui bat en elle, et ce battement qui va représenter quelque chose. Et je trouve que c'est d'une puissance mystique qui est incroyable. Et à la fin, le thème de Dieu revient, et les oiseaux finissent par se reposer. Et les oiseaux, voilà. Messiaen disait que tous les oiseaux sont des prophètes. Et effectivement, moi, j'aime bien aussi ce côté ornithologique de la chose, de se dire que, bah oui, les oiseaux, tous les jours, nous répandent des bonnes paroles on les écoute pas assez. Je crois qu'on n'écoute pas assez les oiseaux qui répandent ces bonnes paroles. Et voilà.
Ok, Julien. Ben, on va
écouter. Ben, merci de m'avoir invité.
On va écouter ce morceau, et puis on te retrouve le jeudi.
Le jeudi, ce ne sera pas jeudi là, ce sera celui d'après sans doute.
Dans deux semaines,
ouais.
À 20h30 en direct sur Jet FM pour la Sainte-Chapelle.
Tout à fait.
Une émission autour des...
Je ne sais pas.
Synthés.
Des synthés.
Au moins, des synthés. Ça laisse synthés. Un truc très large.
Ce n'est pas encore le thème de la prochaine en tout cas.
Un peu comme le festival Variation finalement, ça laisse, le clavier, ça laisse un sujet c'est immense. Ça.
Merci en tout cas Vincent de m'avoir invité.
Bah, merci d'être venu, et puis rappelons...
La baraque prolongée.
Rappelons que cet album est disponible... partout sur les plateformes, mais surtout en vinyle, les siphonophores des eaux froides et profondes de l'Arctique.
Tout à fait.
À très bientôt, Julien. Bonne soirée.
Salut Vincent, merci.
Puis nous, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour de nouvelles baraques et de nouvelles galettes. On écoute le morceau choisi par Julien.
Thank you. Jet FM, la radio curieuse. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille.
Bonsoir Hélène. Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour la suite de notre émission intitulée « Remue ménage ». Et oui, chères auditrices et auditeurs, nous poursuivons nos recherches sur les femmes de ménage, les domestiques et autres employés de maison. Et dans ce deuxième volet, nous allons nous pencher sur la période contemporaine et plus particulièrement le XXe siècle. C'est vrai qu'on avait vu que c'était une position un peu particulière d'être domestique, puisque tu es au service d'autres personnes dans un espace clos du logement privé pour des tâches plutôt ingrates.
Ouais, bah justement, je pense que s'impose maintenant un petit récapitulatif de l'épisode précédent.
Bien, ce qu'il faut retenir de l'épisode précédent, c'est surtout que les femmes sont l'essentiel de la population de service. Pas étonnant. Donc, ces bonnes, ces soubrettes étaient très visibles sous l'Ancien Régime. Et en fait, trois siècles plus tard, comme on va le voir aujourd'hui, c'est plutôt une position cachée, hein. Les femmes de ménage, elles nettoient très tôt ou très tard. On est moins dans une domesticité d'apparat. Mais on est toujours dans ce mélange de hiérarchie, de dépendance et d'intimité. La grande question, c'est les progrès techniques du XXe siècle ont-ils changé le travail et la charge domestique ?
C'est ce que tu nous proposes de découvrir au cours de l'émission.
Voilà, avec cette spéciale femme à tout faire.
Qui veut tout dire à peu près.
C'est ça, puisque le mot service, hein, ça va avec le mot servante, serviteur, et qui vraiment désigne une dépendance et une inégalité. Ça désigne une subordination et une aliénation de liberté. Et aujourd'hui, l'Organisation internationale du travail estime que sur 10 domestiques dans le monde, 8 sont des femmes. Et d'ailleurs, on va voir cela très rapidement, ou plutôt écouter cela avec notre liste d'expressions. Et vous verrez toutes les déclinaisons de « femme à ». Aide ménagère.
Aide à domicile.
Aide à la personne.
Agente d'entretien.
Bécassine.
Cendrillon.
Dame de ménage.
Employée de maison.
Femme de ménage.
Femme de journée.
Femme de service à domicile.
Femme de foyer.
Fée du logis.
Jeune fille au père.
Ménagère.
Maid.
Nettoyeuse.
Nurse.
Nanny.
Personnel de maison.
Technicienne de surface.
Voilà une liste de mots qui sert à dessiner les gens qui servent à l'époque moderne. On voit qu'il y a pas mal d'euphémisme,
ouais,
avec les mots service à la personne, en fait, comme si on nommait pas la chose, en fait.
C'est ça. D'ailleurs, on est vraiment dans ce qu'on appelle, hein, les métiers du care, ces modèles de structuration sociale qui sont censés mêler emploi et solidarité, mais qui sont aussi beaucoup exploitation des femmes, en fait. On va bien voir qu'on va passer d'une domesticité d'apparat, hein, en gros de la bonne de la bourgeoisie, à l'employé de maison d'après-guerre, jusqu'au service à la personne, comme tu le disais, d'aujourd'hui.
Alors Camille, service ou servitude ?
Eh bien, être salarié d'un espace privé d'une famille, c'est très complexe, puisque tu travailles là où tu habites aussi. Et donc, ton inscription dans la famille est inévitable, mais à l'inverse, tu es sans arrêt anonyme, puisque souvent, tu n'es qu'une fonction, tu n'es pas une personnalité. Parfois même, on va communiquer avec toi que par message, hein, où tu vas trouver le petit mot posé sur la table de ce qu'il y a à faire pour la journée. Alors certes, aujourd'hui, les domestiques n'apparaissent plus dans la scène familiale, mais prennent leur place dans l'espace et il y a toujours cette relation de pouvoir et de hiérarchie entre employeur et employé.
J'aimerais bien, Camille, que tu nous racontes maintenant un fait divers très célèbre qui implique comme ça des bonnes et des sœurs, et je pense que ça va un peu donner le là aussi de l'émission.
Oui, puis c'est peut-être l'histoire, le fait divers, c'est le fait divers des sœurs Papin, hein, qui illustre peut-être le mieux, hein, cette imbrication de système de pouvoir et de domination dans ce couple maîtresse-domestique. Alors, les sœurs Papin, ce sont deux domestiques, hein, qui, le 2 février 1933, vont assassiner leur maîtresse et la fille de leur maîtresse. Hein, c'était la famille Lancelin. Et elles sont assassinées par Christine et Léa Papin. Cet assassinat est perçu comme une vengeance. Même pour certaines personnes de gauche de l'époque, c'est une façon de combattre l'injustice. Donc dans la presse, elles vont être perçues à la fois comme des héroïnes, des psychopathes, des criminels, des opprimés et des révoltés. Soit le geste est pris dans son ensemble et symbolise, à partir de leur histoire singulière, la condition insupportable de toutes les bonnes, soit ce sera prétexte à raconter d'autres histoires d'oppression. Et celui qui peut-être a le mieux retranscrit, enfin pour ma part, cette relation très ambiguë, c'est Genet avec sa pièce de théâtre « Les Bonnes », dont on va vous lire la scène d'ouverture. Alors peut-être quelques explications pour cette scène d'ouverture. Donc on a les deux bonnes, Solange et Claire, qui s'amusent à jouer au début de la pièce la relation entre elles et leur maîtresse. Donc Claire ici incarne la maîtresse et en fait la parodie. Voilà, c'est en attendant que Madame rentre.
Et ces gants, ces éternels gants, je t'ai dit souvent de les laisser à la cuisine. C'est avec ça, sans doute, que tu espères séduire le laitier? Non, non, ne mens pas, c'est inutile. Pends-les au-dessus de l'évier. Quand comprendras-tu que cette chambre ne doit pas être souillée? Tout, mais tout ce qui vient de la cuisine est crachat. Sors et remporte tes crachats, mais cesse. Ne te gêne pas, fais ta biche, et surtout ne te presse pas, nous avons le temps. Sors. Préparez ma robe. Vite, le temps presse. Vous n'êtes pas là? Claire? Claire?
Que madame m'excuse, je préparais le tilleul de madame.
Disposez mes toilettes, la robe blanche pailletée, l'éventail, les émeraudes.
Tous les bijoux de madame?
Sortez-les, je veux choisir. Et naturellement, les souliers vernis, ceux que vous convoitez depuis des années, pour votre noce sans doute. Avouez qu'il vous a séduite, que vous êtes grosse, avouez-le. Je vous ai dit, Claire, d'éviter les crachats. Qu'ils dorment en vous, ma fille, qu'ils y croupissent. Ah, vous êtes hideuse, ma belle. Penchez-vous davantage et vous regardez dans mes souliers. Pensez-vous qu'il me soit agréable de me savoir le pied enveloppé par les voiles de votre salive? Par la brume de vos marécages.
Je désire que madame soit belle.
Après les bonnes de Jean Genet, Camille, pour revenir sur cette histoire.
Oui, parce que ce rapport de classe, en fait, il est très complexe. On a deux femmes qui sont là pour se glisser dans la place d'une seule. C'est-à-dire qu'on va avoir deux femmes qui vont incarner et réaliser toutes les fonctions dévolues à la femme maîtresse de maison à cette époque, hein, c'est-à-dire dans les, là on est encore dans l'avant Seconde Guerre mondiale. C'est un lien inévitable mais complexe et ça peut provoquer des confusions, comme on le voit bien avec cette scène d'ouverture. Hein, voilà, tu m'entoures mes pieds de ton crachat, de tes marécages, et quand même il y a une relation plus ou moins érotique entre les deux aussi, quoi. En fait, la situation de l'employé de maison n'est pas dissociable de la position de maîtresse de maison. Les deux sont vraiment très liés, d'où un rapport de classe en fait, puisque celle qui l'emploie, elle tire bénéfice puisqu'elle se fait remplacer, celle qui donne les ordres et traite avec celle qui vient de l'extérieur. Mais elle doit quand même s'en distinguer. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les mémoires de Madeleine Lamouille, qui était une femme de chambre, hein, et qui raconte ses 20 ans d'expérience dans la grande bourgeoisie de Suisse, entre 1920 et 1940, et c'est plutôt pas mal ces réflexions.
Elle parlait assez bonne, tandis que Madame W. n'engageait jamais la conversation avec nous. Je ne sais pas si c'était par timidité ou si c'était par éducation. Elle avait été élevée par une mère qui était un véritable dragon. Un jour que celle-ci se promenait dans la campagne, sa petite fille lui avait fait cette réflexion.
Oh, bonne maman, ces moissonneurs, ceux qu'ils doivent avoir chaud. Mais non, avait-elle répondu, mais non, ils ne sentent rien, ils ont la peau dure. Voilà comment elle parlait. Cela me faisait penser à une histoire qu'on m'a racontée, et qui se passe en Italie. Deux dames sont en conversation dans leur salon. L'une dit, il y a autant de différence entre nous et les femmes du peuple qu'entre une pipe de terre et une pipe de porcelaine. Puis elle demande au valet de chambre, qui a tout entendu, d'aller chercher sa fille pour la présenter à son invité. Le valet de chambre appelle la bonne d'enfant et lui dit bien fort, de façon à être entendu au salon, « Pipe de terre, amenez la pipe de porcelaine !»
Oui, moi j'aime beaucoup cette expression-là, pipe de terre, pipe de porcelaine. Je trouve que la punchline du valet de chambre veut tout dire, en fait, il a tout compris, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Il a bien compris comment on méprise sa classe, quoi. Et donc on revient à nos rapports entre deux femmes, entre la maîtresse et sa bonne. En fait, chacune est toujours un peu le double de l'autre. On retrouve aussi cette notion de double journée de travail, double femme à tout faire. En fait, elles sont sans arrêt au service du monde. Puisque la gestion du personnel incombe bien à la femme bourgeoise. C'est à elle de rechercher, de sélectionner, de superviser, de réprimer, de résoudre les conflits, de s'inquiéter de leur bien-être. Celles qui ont en charge tout le travail émotionnel et relationnel avec leurs domestiques. En fait, c'est une forme de direction et de formation.
Oui, j'allais dire DRH un peu, ouais. Là, c'est ça que tu veux nous dire.
Mais c'est ça, sauf que c'est pas reconnu.
Oui, voilà.
Alors que ça, dans n'importe quelle entreprise, t'es payé pour le faire. Voilà. Donc c'est vrai que ces domestiques, elles permettent à des femmes de milieux sociaux plutôt élevés de déléguer une partie du travail reproductif pour mener à bien leur activité professionnelle ou des loisirs. Mais elles ne sont pas dégagées de toute charge mentale, puisque les contraintes se déplacent. C'est-à-dire que la compétence de cette femme bourgeoise va s'exprimer dans le choix du bon personnel. Et ce sera sa faute si ça se passe mal.
Bah tu m'étonnes. Hein.
Bah ouais. Et c'est aujourd'hui une grande question finalement de sociaux plutôt, c'est-à-dire comment on peut questionner ces femmes-là sur leur rapport d'employeuse sans pour autant les culpabiliser.
Ouais.
Voilà, parce que c'est complexe comme situation.
Tu veux dire, attends, défendre les femmes sans attaquer la bourgeoisie, ouais, c'est vrai que là on va être schizophrène quoi.
C'est ça, sans attaquer d'autres femmes en fait. C'est assez compliqué. Parce que voilà, il ne faut pas renforcer en fait des oppressions sociales de femmes de manière générale. D'autant que ça devient aussi des enjeux économiques, puisqu'aujourd'hui, finalement, le nouvel ordre du monde, c'est ces femmes pauvres du Sud qui vont quitter leur territoire pour s'occuper de celles plus riches des pays du Nord.
Ouais. Ou de leurs enfants pour que celles plus riches des pays du Nord puissent aller bosser, avoir une carrière.
Voilà. Et ouais, complexe, toutes ces situations.
Ouais. Et pour essayer de simplifier les débats, Camille, on va changer de sujet. Et est-ce qu'on peut se dire qu'avec l'arrivée de la société de consommation et les 30 Glorieuses, et est-ce que tous les objets qu'on a accumulés et qui sont arrivés à ce moment-là ont changé le rapport au ménage ?
En fait, non. L'introduction des appareils électroménagers n'a pas réduit le temps de travail, mais seulement un petit peu la peine et la fatigue. Et encore. Puisque cette domestique libérée de certaines contraintes va être soumise à d'autres. En gros, on va soit réduire son salaire puisque la machine à laver lui enlève du travail, soit on va réduire le nombre d'heures de ménage sans pour autant en diminuer les tâches demandées, puisque elle en délègue à une partie de la machine. En fait, c'est pas parce qu'il y a de la rationalisation qu'il n'y a pas de l'exploitation. Et même souvent, rationalisation va avec exploitation.
Tu me l'as enlevé là.
Et pourtant, ces histoires de ménage ne sont toujours pas perçues comme une profession. Pourtant, c'est bien une production. Alors, pour rester sur cette thématique du travail domestique, je vous propose d'écouter les vulves assassines d'As Capital.
Oh. communisme n'est pour nous ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État existant.
C'était les Vulves Assassines, Das Kapital, pour notre émission Remue-Ménage sur l'histoire de la domesticité. Et oui, parce que nos petites bonnes, elles ne sont ni ouvrières ni bourgeoises, donc elles n'ont pas de place dans l'intégration ou le rejet par la classe dominante. En gros, elles ne peuvent pas se constituer en tant que classe sociale pour établir un rapport de lutte. Là, c'est le moment un peu politique-économie.
Ouais, d'ailleurs, elle sourit là, elle est toute excitée.
Déjà, pose la question de la multiplicité des combats. Est-ce que c'est une lutte contre les patrons ? Est-ce que c'est un combat de femmes employées contre, en gros, une femme employeuse ? De même, on n'a pas les mêmes réactions à l'humiliation de services entre l'homme domestique militant syndical de 1900 qui défend des services spécialisés et honorables à la bonne à tout faire ou employé de maison. Ce n'est pas tout à fait les mêmes revendications.
Ouais. Alors du coup, est-ce qu'il y a des luttes qui sont spécifiques ?
Oui, en fait, les luttes des domestiques, il y a une certaine spécificité. Tout d'abord, ils sont isolés, assez seuls. Ils vivent en quartier bourgeois.
Ouais.
Donc ça, c'est des obstacles considérables.
Ouais.
T'es pas dans le quartier ouvrier où tu vas avoir des solidarités. Ils n'ont pas d'espace social comme la classe ouvrière. C'est une profession qui est déterminée par un espace privé, ménager, bourgeois et féminin. Et d'ailleurs, se mettre en condition, c'est-à-dire débuter dans ce métier-là, était souvent perçu comme un état et un état de honte.
Et oui, donc tu veux dire, après, derrière, pour revendiquer des droits, etc., quand tu es pris par la honte, tu vas te sentir déjà moins légitime pour le faire. Mais je pense que ce que tu dis par rapport au quartier bourgeois, tu vois, le fait de ne pas vivre dans un quartier ouvrier, ça doit beaucoup jouer, comme tu dis, pour. Ça empêche de se fédérer, en fait. Tout simplement. Après, on peut se demander s'il y a des syndicats spécifiques, mais...
Eh bien, il y en a eu. À la fin du 19e, il y a quelques créations de syndicats. D'ailleurs, même en 1909, on a une sorte de chanson hymne un peu des domestiques. Ça s'appelle « Les gueux de la poussière ».
On aurait dû dire « les gueuses de la poussière ».
Ouais, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Mais oui, on a bien quelques syndicats qui se construisent autour de journaux, un peu comme ça se fait à l'époque. On a plusieurs journaux comme le journal des gens de maison, le serviteur. Alors, serviteur, c'est plutôt syndicat jaune, très, très modéré. Alors, ce n'est pas des syndicats dits ouvriers, parce qu'ils ne sont pas mixtes. Et puis surtout, ils sont soumis à un patronage de notables ou de philanthropes. Donc, il y a toujours un riche qui jette un œil.
Qui donne à manger. Ben voilà.
Donc, difficile d'organiser la lutte.
C'est Macron qui est le président de la SOS. Voilà. D'accord.
Et puis ces syndicats, ils regroupent les professions les plus nobles de la domesticité et souvent les professions masculines, cocher, cuisinier, maître d'hôtel. Et l'idée, c'est plutôt de défendre une corporation plutôt que d'améliorer les droits. Donc c'est-à-dire, on va parler des problèmes de placement, d'aide juridique, mais pas vraiment d'amélioration des conditions de travail. Alors, il y a quand même un syndicat rouge qui s'organise autour du journal qui s'intitule « Le réveil des gens de maison ».
qui datent des années 1908-1910. Et eux, par exemple, dans leurs articles, ils vont évoquer des formes de sabotage, hein, par exemple en mettant du vitriol dans le café de ses employeurs.
D'accord. Ah, mais c'est radical, quoi.
Ouais, voilà. C'est... mais on reste quand même dans un discours très, très masculin dans ce syndicat-là, hein, un langage très phallocratique. Par exemple, on va s'apitoyer sur le sort des pauvres petites bonnes, mais on ne discute pas de l'admission des femmes au syndicat. On te fait « Oh, les pauvres, mais vous ne venez pas
ouais, !»
Voilà. Il va y avoir beaucoup de revendications sur le thème de la dignité. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, la dignité.
Ouais.
Tu vois, il n'y a pas de revendications concrètes. On va être payé tant de l'heure.
Pas de journée à plus de tant d'heures,
voilà,
etc.
Et il faudra attendre 1951 pour avoir la première convention collective. Donc, c'est assez tard. Et alors là, grosse surprise, cette convention collective, elle a été portée notamment par la JOC, hein, qui était la jeunesse ouvrière chrétienne, et la CFDT.
Oui.
Et c'est les premiers en plus à prendre en compte l'importance de l'immigration dans la branche employée de maison.
Ce qui est surprenant, Camille, que la CGT soit pas de ce combat-là, qui est quand même ouais, normalement un syndicat, voilà, plus militant, etc. La CFDT, on voit que c'est quand même plus centriste. Et JOC, je connaissais carrément pas. Enfin,
ouais. Peut-être, truc CFDT, c'est aussi parce qu'on est en lien avec la bourgeoisie, tu vois. Enfin, il y a un truc aussi, on est sur de l'intime, voilà.
Oui, mais c'est quand même intéressant de souligner ouais, l'espèce de vide, justement, ouais, des syndicats qui défendent normalement les ouvriers, etc.
Ouais. Alors, pareil, du côté du congrès, enfin, on va dire, du côté des milieux féministes, ben, pas grand-chose. Certes, les congrès féministes de la première vague vont s'engager pour les femmes du peuple, mais le problème des domestiques dérange fortement ces féministes bourgeoises, parce que là, elles se retrouvent en tant qu'exploiteuses.
Oui, c'est ça, c'est certainement pas les mêmes enjeux, en fait, ouais, du coup, ouais.
Alors, il y en a une, Madame Vincent, qui, elle, est républicaine et libre-penseuse, qui ne va pas hésiter à chaque fois, à chaque congrès, en rajouter et en parler, et en parler, et en parler. Et elle nous dit, et ça c'est lors du Congrès national des droits civils et du suffrage des femmes en 1908, elle nous dit « Il existe une classe de travailleuses à part entière, véritable paria qui semble hors la loi et dont nul ne prend souci. Nous voulons appeler l'attention sur la situation des femmes et des filles appelées bonnes à tout faire et qui sont logées et nourries par les maîtres qui les emploient. Dans beaucoup de maisons, les bonnes sont absolument soumises aux caprices de leur maîtresse qui, certainement en bien des cas, abusent de la situation, surtout lorsqu'elles ont affaire à de jeunes filles. »
Il est très beau ce texte.
Ouais, et derrière, elle va faire une proposition en réclamant une réglementation sociale pour cette profession. En disant qu'il faut s'appuyer sur les normes ouvrières, en fait. Voilà, ouais, avec une législation renouvelée, des commissions gouvernementales d'hygiène et de travail pour former aussi ces femmes-là, etc.
Bah, ça nous paraît du bon sens, mais en fait, depuis 1908, on n'a pas fait énormément de progrès, clairement, Camille.
Non. D'ailleurs, tu parlais d'euphémisme dans les dénominations. Tu vois, à l'époque, on parle d'aide ménagère ou d'ouvrière de ménage. Pour essayer aussi de mettre un peu cette influence-là de rapport de classe.
Mais le 21e siècle bat tout, quand même. Technicien de surface,
voilà,
c'est quand même le top, quoi.
C'est ça, puisqu'à partir de voilà, 1950, on va être employé de maison, etc. Et donc, on enlève cette notion-là, hein, de rapport de classe.
On va pouvoir continuer, Camille, sur les mouvements féministes avec cette fois la deuxième vague.
Oui, je crois que là, c'est le grand moment, Christine Delphi. Et oui, parce que cette deuxième vague féministe va dénoncer l'invisibilité du travail domestique. Alors ça commence dès 1963 avec Betty Friedan et La femme mystifiée, qui est un grand ouvrage du féminisme américain. Et puis ensuite, c'est Christine Delphi qui va plutôt porter ce combat-là en France, notamment. Et donc, on va commencer à critiquer les emplois subalternes occupés par une grande majorité des femmes, puisque pour Delphi, hein, jusque-là, le travail ménager et familial était impensé des analyses marxistes. Et pour elle, capitalisme et patriarcat sont empiriquement et historiquement mêlés. Donc en gros, le boulot de Delphi dans les années 70, mais pas qu'elle, hein, évidemment, c'est de faire reconnaître l'existence même du travail ménager et son omniprésence. Et donc elles ont réussi à mettre en valeur les rapports de production et que c'est bel et bien un travail, hein, ce travail domestique. et que celui-ci, il est extorqué à la personne qui le fait. Et que c'est une forme importante de l'exploitation des femmes. Et ça, ça a été quand même une sacrée avancée dans ces années-là. D'ailleurs, pareil, dans ces années-là, les conventions collectives vont être revues, retravaillées. On va passer à un horaire de 48 heures semaine avec une tolérance pour 54 heures. On essaie un petit peu d'améliorer les choses, mais on a toujours une absence des employés de maison dans le Code du travail en 1973. Même encore aujourd'hui, il est d'usage des prestations en nature, c'est-à-dire des heures d'équivalence. On ne paie pas toutes les heures que font les domestiques, mais on leur file un cadeau. D'où le fait qu'encore aujourd'hui, de nombreuses femmes de ménage luttent pour leurs droits. On pense évidemment à cette longue grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis en 2021. Alors que ça avait commencé en juillet 2019 et ça s'est terminé en mai 2021. 22 mois de lutte, je pense que c'est une des luttes les plus longues de toute l'histoire du XXe siècle, en combat.
Ouais. Donc ça veut dire qu'elles se sont assises sur pas mal de journées de salaire aussi, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Et je me dis, je pense que Ibis, ça appartient à la chaîne Accor, qui doit être le premier groupe hôtelier au monde aussi. Enfin, tu vois, c'est pas le pauvre petit hôtel Ibis de quartier, tu vois.
Et je trouve que symboliquement, aujourd'hui, le fait qu'il y ait une députée et issue de cette lutte-là, à l'Assemblée nationale, ça a toute sa symbolique, quoi.
Oui, tout à fait. Mm. Après, pour rester sur ces grèves de femmes de chambre dans les hôtels, du coup, il y a cette histoire sur l'hôtel Ibis, cette grève de l'hôtel Ibis en 2021. Mais il y a un film que tu devrais bien aimer, qui a été tourné, qui est sorti en 2013, tourné en 2011. Et là, c'est sur une grève au sein du nouveau hôtel. Et c'est pareil, c'est que des femmes issues de l'immigration et qui se battent en fait pour faire reconnaître leurs droits. Et le film s'appelle « On a grévé », d'une formule employée justement par les femmes dans le film, en fait, qui sont super fières d'avoir participé à la grève.
Ouais, des documentaires, il y en a eu pas mal. Il y a aussi un autre documentaire d'Ivora Cusack qui était sur les grèves des femmes de chambre de la société Arcade, qui pareil bossait dans les hôtels à Cor. Et puis on pense aussi au dernier documentaire plus récent de François Ruffin, Debout les femmes.
Ouais.
Alors c'est vrai que là on vient de citer du documentaire, mais on a aussi le fabuleux ouvrage de Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham, qui était sorti en 2010, où elle s'est infiltrée pendant un an chez les travailleuses précaires à Caen, dans la société de nettoyage de Ferry.
Ouais, là aussi, grosse exploitation. Après, peut-être la limite de ces luttes-là, Camille, c'est de se dire, quand t'es femme de ménage au sein d'un hôtel, ben voilà, t'as des collègues et on n'est pas dans le monde de la domesticité. C'est pour ça que la lutte-là peut prendre forme, en fait. Mais quand t'es seule, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, la difficulté de se rallier à d'autres personnes, de se fédérer et tout.
Oui, et ben d'ailleurs, la série Made, c'est ça aussi, un petit peu, ça m'y fait penser. C'est une mini-série américaine en 10 épisodes qui est l'adaptation d'un parcours de vie d'une femme, femme de ménage. Ouais, très belle série.
Et finalement, on voit du coup aussi ce côté plus isolé, en fait.
C'est ça.
Malheureusement, c'est le problème, quoi.
Voilà.
พักผ่อนพูดมันเลยมาอยากคุณน้องคนกลับไปนอน
C'était Milly, un peu de rap thaïlandais pour cette émission sur les femmes domestiques.
Parle-nous des riches, Camille.
Ben, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent tout simplement exploiter comme il se doit.
Oh.
Hein ? Et oui, parce que même si les familles qui emploient les domestiques à temps plein au début du XXe siècle va décroître fortement, ça n'empêche pas aujourd'hui qu'un petit noyau de personnes très fortunées ait à leur service une ou plusieurs domestiques. Aristocrates et nouveaux riches n'envisagent pas leur vie sans domestique. Et ils vont même ériger cet emploi au rang de culture. En gros, c'est notre culture d'exploiter des gens. Ben oui, des riches. Pour eux, ça relèverait d'un besoin et pas d'un confort. Pourtant, on est quand même là aussi dans de la domesticité d'apparat. Ça sert surtout à briller en société et à préserver une certaine réputation.
Oui, mais quand on est riche, ça, c'est un besoin.
Voilà, affirmer son appartenance à la culture aristocratique ou se légitimer vis-à-vis de sa même culture lorsque tu es nouveau riche. Dire, t'as vu, j'ai les mêmes codes.
C'est ça.
Et oui, parce qu'ils se jugent entre eux. Ils estiment la fortune et le goût des uns des autres par rapport au nombre de domestiques. En gros, rien n'a changé depuis le 19e siècle.
Ou le 17e.
Donc on est toujours sur leur âge, des domestiques, leur genre, leur couleur de peau, leur nationalité, leur accent, leurs cheveux, leur corpulence. Et même des fois, on va créer des postes de domestiques pour affirmer son exception. Moi, j'ai lu, voilà, il y a quelqu'un qui raconte, elle bossait dans une très, très grande famille bourgeoise qui avait inventé le poste de gardien de rosier. Oh. T'es même pas jardinier, t'es gardien de rosier.
Cosette de Boudoir vous propose une autre histoire des domestiques avec l'émission Remue-ménage.
Fondamental puisque la réputation forge les relations et les alliances dans ce milieu-là.
En même temps, si quelqu'un te dit « je suis gardien de rosier », tu lui dis « tu fumes du crack ». Ouais. Arrête.
C'est rosier. C'est ça. Finalement, les employés de maison d'aujourd'hui dénoncent les mêmes choses que celles d'hier, puisque la condition n'a... Ah, voilà, on est dans le même système.
Oui, on le voit, rien n'a changé.
Rien n'a changé, c'est toujours voilà, les horaires mal délimités, les abus de pouvoir, l'infinitude de tout faire et la transparence d'un travail largement méprisé. Et là, on va retrouver aujourd'hui trois types d'employés de maison. On va avoir l'employé à plein temps, qui va être nourri, logé. La femme de ménage, donc qui n'est pas obligatoirement logée hein, sur place et qui va venir, c'est plutôt elle qui est très, très invisible, puisqu'elle vient quand il n'y a plus personne. Et puis la jeune fille au pair, qui est aussi une forme de domesticité. Moderne, mis au goût du jour, mais finalement, qui se retrouve au service d'une famille.
Là, tu nous as décrit différents types, justement, d'employés de maison, femme de ménage, jeune fille au pair, employée à plein temps, mais il en manque une, Camille.
Et oui, c'est la figure de la nourrice, la nanny, la nurse.
La nurse anglaise, ça fait flipper.
Ouais, la nurse anglaise, ça fait flipper. Mais voilà, c'est celle qu'on paye pour prendre soin de l'enfant. Et là aussi, on est dans un rapport singulier, puisque l'enfant, il va être un petit peu... dans un jeu de dépendance entre sa mère et sa nourrice. Certaines nourrices sont des vrais doubles de mère, hein, puisqu'on va les visiter 30 ans plus tard. D'autres vont se succéder en personnages uniques et multiformes. Alors, peut-être que le rapport aux enfants est plus gratifiant que le rapport aux adultes. Oui. Mais par contre, il y a un poids qui est encore plus fort puisque ils vont être responsables de l'éducation. Et la mère va être responsable aussi du choix de la nourrice, avec peut-être une plus grosse pression. Il y a une sorte de culpabilisation sociétale, en fait. C'est pour ça que parfois, le monde de l'employé peut paraître d'une étrangeté redoutable pour le monde bourgeois aux valeurs universalistes étriquées. Donc on va aimer un peu d'exotisme. Au XIXe siècle, on aimait la bonne de culture bretonne, la nourrice, comme tu disais, la nourrice anglaise, etc. Là, on va apprécier d'avoir une nourrice d'une autre culture, par exemple de culture arabe ou culture indienne. Alors ça peut pas paraître positif lorsqu'il s'agit d'une langue étrangère noble, parler par exemple par la jeune fille au père,
ouais.
Mais négative lorsque l'enfant va faire connaissance des amis de l'employé.
On pourrait prendre l'exemple, je sais pas, t'es une jeune fille au père française, tu vas en Angleterre, tu parles français aux enfants de la famille, il y aura pas de problème. Si t'es franco-algérienne, si tu leur parles algérien, ça sera peut-être un peu moins bien vu, on peut supposer.
C'est ça. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec ce très bon roman de Leïla Slimani, Chanson douce, hein, où on a une figure de la nounou assez flippante. Mais la famille est flippante aussi. Elle entre dans la cuisine et allume la lumière. La pièce a l'air encore plus propre que d'habitude. Il y flotte une forte odeur de savon. La porte du frigidaire a été nettoyée, rien ne traîne sur le plan de travail. La hotte ne porte aucune trace de graisse, les poignées des placards ont été passées à l'éponge. Et la vitre, en face d'elle, est d'une propreté éclatante. Myriam s'apprête à ouvrir le frigidaire quand elle la voit. Là, au centre de la petite table où mangent les enfants et leurs nounous, une carcasse de poulet est posée sur une assiette. Une carcasse luisante, sur laquelle ne reste pas le moindre bout de chair, pas la plus petite trace de viande. On dirait qu'un vautour l'a rongée, ou un insecte entêté, minutieux. Une mauvaise bête, en tout cas. Elle fixe le squelette marron, son échine ronde, ses os pointus, la colonne vertébrale lisse et nette. Les cuisses ont été arrachées, mais les ailes, tordues, sont encore là, les articulations distendues, prêtes à rompre. Le cartilage luisant, jaunâtre, ressemble à du pus séché. À travers les trous, entre les petits os, Myriam voit l'intérieur du thorax, noir et exsangue. Il n'y a plus de viande, plus d'organes, rien de putrescible sur ce squelette, et pourtant, il semble à Myriam que c'est une charogne, un immonde cadavre qui continue de pourrir sous ses yeux, là, dans sa cuisine. Elle en est sûre, elle a jeté le poulet ce matin même. La viande n'était plus consommable. Elle allait ainsi éviter à ses enfants d'être malades. Elle se souvient très bien qu'elle a secoué le plat au-dessus du sac poubelle et que la bête est tombée, entourée de graisse gélatineuse. Elle s'est écrasée dans un bruit sourd au fond de la corbeille et Myriam a dit « burk ». Cette odeur, au petit matin, l'a écœurée. Myriam s'approche de la bête qu'elle n'ose pas toucher. Cela ne peut pas être une erreur, un oubli de Louise. Encore moins une plaisanterie. Non. La carcasse sent le liquide vaisselle à la menthe douce. Louise l'a lavée à grande eau, elle a nettoyé et elle l'a posée là, comme une vengeance, comme un totem maléfique.
Cosette de Boudoir vous propose une autre histoire des domestiques avec l'émission Remue-ménage.
Moi, j'aime beaucoup ce roman parce qu'on voit vraiment ce piège affectif des relations dites amicales entre l'employé de maison et ses patrons. On a une relation patron-domestique qui fascine et qui peut aussi effrayer par son ambivalence, puisque ça oscille entre distance et intimité, harmonie et violence, loyauté et rébellion.
Oui. Sur ces rapports-là, Camille, on pourrait citer pas mal de films. Tu m'as cité la série d'Antin Abbé. Il y a aussi le film Parasite, le film coréen qui a eu tu vois, son beau succès. Et je voudrais revenir sur le film de Jean-Claude Guiguet, Les Bonnes Manières. C'est un peu les petites perles rares du cinéma français. Et ça revient justement sur les rapports entre un employé de maison et sa riche maîtresse. Et finalement, on voit les tensions qui se dégagent a priori, alors qu'elle est bienveillante avec lui, mais finalement le domestique lui rejette fortement cette domination et à un moment tout craque. Et vraiment, voyez Les Bonnes Manières, c'est un très très beau film.
Et oui, parce que moi j'ai retrouvé cette idée-là dans le témoignage d'une domestique dans ses mémoires, où elle dit en fait, quand je me familiarise avec mes patrons, je peux plus revendiquer. Il n'y a plus ce rapport de classe. Et elle dit, il faut que je le garde, parce que sinon, je ne peux pas améliorer mes conditions de travail.
Alors ça, je pense que chacun peut le vivre dans le monde du travail, mais comme là, on est toujours dans le monde de la domesticité, c'est la même chose, mais puissance 1000.
Ouais. C'est et puis, en plus, t'es dans l'univers intime, etc.
Donc, réussir à garder ses distances, alors que t'es dans la cuisine des gens, c'est pas facile.
Complexe.
Cosette de Boudoir vous propose une autre histoire des domestiques avec l'émission Remue-ménage.
La dernière fois, on parlait des corps dans les étapes de recrutement. Rien n'a évolué depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que la patronne va porter attention au corps et aux qualités morales qu'il est censé refléter. Donc elle va scruter les attributs corporels, la manière de se vêtir, de se mouvoir. Il ne faut pas que sa domestique ait une apparence trop sexualisée, parce qu'on est encore dans ce fantasme des relations de séduction et d'adultère. On n'a qu'à voir le nombre de films porno qui mettent en scène des bonnes. Encore aujourd'hui.
Ouais, particulièrement au Japon.
Ouais, puisque le costume de soubrette a une dimension érotique au Japon.
Ah, mais vraiment forte, quoi.
Ouais. C'est même, je pense, c'est même une catégorie de films porno, quoi.
Oui, 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 tout à fait. C'était Mama Was a Kitchen Girl, un hymne, un chant de lutte, justement, qui rend hommage à celle qui brique.
Ouais, et notamment à toutes ces domaines.